Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Troisième partie. Dialogue 5 et 6.
J'hésite à vous répondre, Machiavel, car il y a dans vos dernières paroles je ne sais quelle raillerie satanique qui me laisse intérieurement le soupçon que vos discours ne sont pas complètement d'accord avec vos secrètes pensées. Oui, vous avez la fatale éloquence qui fait perdre la trace de la vérité, et vous êtes bien le sombre génie dont le nom est encore l'effroi des générations présentes. Je reconnais, de bonne grâce toutefois, qu'avec un aussi puissant esprit, on perdrait trop à se taire. Je veux vous écouter jusqu'au bout, et je veux même vous répondre, quoique, dès à présent, j'ai peu d'espoir de vous convaincre. Vous venez de faire de la société moderne un tableau vraiment sinistre. Mais il est au moins incomplet, car en toute chose, à côté du mal, il y a le bien. Et vous ne m'avez montré que le mal. Vous ne m'avez d'ailleurs pas donné le moyen de vérifier jusqu'à quel point vous êtes dans le vrai, car je ne sais ni de quel peuple, ni de quels états vous avez voulu parler quand vous m'avez fait cette noire peinture des mœurs contemporaines.
Eh bien, admettons que j'ai pris pour exemple celle de toutes les nations de l'Europe, qui est la plus avancée en civilisation, et à qui, je m'empresse de le dire, pourrait le moins s'appliquer le portrait que je viens de faire.
C'est donc de la France que vous voulez parler?
Eh bien, oui.
Vous avez raison, car c'est là qu'ont le moins pénétré les sombres doctrines du matérialisme. C'est la France qui restait le foyer des grandes idées et des grandes passions dont vous croyez la source tarie. Et c'est de là que sont partis ces grands principes du droit public, auxquels vous ne faites point de place dans le gouvernement des États.
Vous pouvez ajouter que c'est le champ d'expérience consacré des théories politiques.
Je ne connais point d'expérience qui ait encore profité, d'une manière durable, à l'établissement du despotisme, en France pas plus qu'ailleurs, chez les nations contemporaines. Et c'est ce qui tout d'abord me fait trouver bien peu conforme à la réalité des choses vos théories sur la nécessité du pouvoir absolu. Je ne connais, jusqu'à présent, que deux États en Europe complètement privés des institutions libérales, qui ont modifié de toutes parts l'élément monarchique pur. Ce sont la Turquie et la Russie. Et encore, si vous regardiez de près aux mouvements intérieurs qui s'opèrent au sein de cette dernière puissance, peut-être y trouveriez-vous les symptômes d'une transformation prochaine. Vous m'annoncez, il est vrai, que dans un avenir plus ou moins rapproché, les peuples, menacés d'une dissolution inévitable, reviendront au despotisme comme à l'arche de salut, qu'ils se constitueront sous la forme de grandes monarchies absolues, analogues à celles de l'Asie. Ce n'est là qu'une prédiction. Dans combien de temps s'accomplira-t-elle ?
Avant un siècle.
Vous êtes devin. Un siècle, c'est toujours autant de gagner. Mais laissez-moi vous dire maintenant pourquoi votre prédiction ne s'accomplira pas. Les sociétés modernes ne doivent plus être envisagées aujourd'hui avec les yeux du passé. Leurs mœurs, leurs habitudes, leurs besoins, tout a changé. Il ne faut donc pas se fier sans réserve aux inductions de l'analogie historique quand il s'agit de juger de leur destinée. Il faut se garder surtout de prendre pour des lois universelles des faits qui ne sont que des accidents et de transformer en règle générale les nécessités de telle situation ou de tel temps. De ce que le despotisme est arrivé plusieurs fois dans l'histoire comme conséquence des perturbations sociales, s'ensuit-il qu'il doit être pris pour règle de gouvernement. De ce qu'il a pu servir de transition dans le passé, en conclurai-je qu'il soit propre à résoudre les crises des époques modernes. N'est-il pas plus rationnel de dire que d'autres maux appellent d'autres remèdes, d'autres problèmes, d'autres solutions, d'autres mœurs sociales, d'autres mœurs politiques? Une loi invariable des sociétés, c'est ce qu'elles tendent au perfectionnement, au progrès. L'éternelle sagesse les y a, si je puis le dire, condamnées. Elle aura refusé le mouvement en sens contraire. Ce progrès, il faut qu'elle l'atteigne.
Ou qu'elle meure.
Ne nous plaçons pas dans les extrêmes. Les sociétés ne meurent jamais quand elles sont en voie d'enfantement. Lorsqu'elles se sont constituées sous le mode qu'elle leur convient, leurs institutions peuvent s'altérer, tomber en décadence et périr. Mais elles ont duré plusieurs siècles. C'est ainsi que les divers peuples de l'Europe ont passé par des transformations successives du système féodal au système monarchique et du système monarchique pur au régime constitutionnel. Ce développement progressif, dont l'unité est si imposante, n'a rien de fortuit. Il est arrivé comme la conséquence nécessaire du mouvement qui s'est opéré dans les idées avant de se traduire dans les faits. Les sociétés ne peuvent avoir d'autres formes de gouvernement que celles qui sont en rapport avec leurs principes. Et c'est contre cette loi absolue que vous vous inscrivez, quand vous croyez le despotisme compatible avec la civilisation moderne. Tant que les peuples ont regardé la souveraineté comme une émanation pure de la volonté divine, ils se sont soumis sans murmure au pouvoir absolu. Tant que leurs institutions ont été insuffisantes pour assurer leur marche, ils ont accepté l'arbitraire. Mais du jour où leurs droits ont été reconnus et solennellement déclarés, du jour où des institutions plus fécondes ont pu résoudre par la liberté toutes les fonctions du corps social, la politique à l'usage des princes est tombée de son haut. Le pouvoir est devenu comme une dépendance du domaine public. L'art du gouvernement s'est changé en une affaire d'administration. Aujourd'hui, les choses sont ordonnées de telle sorte, dans les États, que la puissance dirigeante n'y paraît plus que comme le moteur des forces organisées. À coup sûr, si vous supposez ces sociétés infectées de toutes les corruptions, de tous les vices dont vous me parliez il n'y a qu'un instant, elles marcheront d'un pas rapide vers la décomposition. Mais comment ne voyez-vous pas que l'argument que vous en tirez est une véritable pétition de principe? Depuis quand la liberté abaisse-t-elle les âmes et dégrade-t-elle les caractères? Ce ne sont pas là les enseignements de l'histoire, car elle atteste partout en trait de feu que les peuples les plus grands ont été les peuples les plus libres. Si les mœurs se sont avilies, comme vous le dites, dans quelques parties de l'Europe que j'ignore, c'est que le despotisme y aurait passé, c'est que la liberté s'y serait éteinte. Il faut donc la maintenir là où elle est, et la rétablir là où elle n'est plus. Nous sommes en ce moment, ne l'oubliez pas, sur le terrain des principes. Et si les vôtres diffèrent des miens, je leur demande d'être invariables. Or, je ne sais plus où j'en suis quand je vous entends vanter la liberté dans l'Antiquité et la proscrire dans les temps modernes, la repousser ou l'admettre suivant les temps ou les lieux. Ces distinctions, en les supposant justifiées, n'en laissent pas moins le principe intact, et c'est au principe seul que je m'attache.
Comme un habile pilote, je vois que vous évitez les écueils en vous tenant dans la haute mer. Les généralités sont d'un grand secours dans la discussion, mais j'avoue que je suis très impatient de savoir comment le grave Montesquieu s'en tira avec le principe de la souveraineté populaire. Je n'ai pu savoir jusqu'à ce moment s'il faisait ou non partie de votre système. L'admettez-vous ou ne l'admettez-vous pas?
Je ne puis répondre à une question qui se pose dans ces termes.
Je savais bien que votre raison elle-même se troublerait devant ce fantôme.
Vous vous trompez, Machiavel. Mais avant de vous répondre, je devais vous rappeler ce qu'ont été mes écrits et le caractère de la mission qu'ils ont pu remplir. Vous avez rendu mon nom solidaire des iniquités de la Révolution française. C'est un jugement bien sévère pour le philosophe qui a marché d'un pas si prudent dans la recherche de la vérité. Né dans un siècle d'effervescence intellectuelle, à la veille d'une révolution qui devait emporter dans ma patrie les anciennes formes du gouvernement monarchique, je puis dire qu'aucune des conséquences prochaines du mouvement qui se faisait dans les idées n'échappa dès lors à ma vue. Mais je ne pus méconnaître que le système de la division des pouvoirs déplacerait nécessairement un jour le siège de la souveraineté. Ce principe, mal connu, mal défini, mal appliqué surtout, pouvait engendrer des équivoques terribles et bouleverser la société française de fond en comble. Le sentiment de ces périls devint la règle de mes ouvrages. Aussi, tandis que d'imprudents novateurs, s'attaquant immédiatement à la source du pouvoir, préparaient, à leur insu, une catastrophe formidable, je m'appliquais uniquement à étudier les formes des gouvernements libres, à dégager les principes proprement dits qui président à leur établissement. Homme d'État plutôt que philosophe, jurisconsulte plus que théologien, législateur pratique, si la hardiesse d'un tel mot m'est permise, plutôt que théoricien, je croyais faire plus pour mon pays en lui apprenant à se gouverner qu'en mettant en question le principe même de l'autorité. À Dieu ne plaise pourtant que j'essaye de me faire un mérite plus pur aux dépens de ceux qui, comme moi, ont cherché de bonne foi la vérité. Nous avons tous commis des fautes, mais à chacun la responsabilité de ses œuvres. Oui, Machiavel, et c'est une concession que je n'hésite point à vous faire. Vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez qu'il eût fallu que l'émancipation du peuple français se fît en conformité des principes supérieurs qui président à l'existence des sociétés humaines. Et cette réserve vous laisse prévoir le jugement que je vais porter sur le principe de la souveraineté populaire. D'abord, je n'admets point une désignation qui semble exclure de la souveraineté les classes les plus éclairées de la société. Cette distinction est fondamentale, parce qu'elle fera d'un État une démocratie pure ou un État représentatif. Si la souveraineté réside quelque part, elle réside dans la nation tout entière. Je l'appellerai donc tout d'abord la souveraineté nationale. Mais l'idée de cette souveraineté n'est pas une vérité absolue. Elle n'est que relative. La souveraineté du pouvoir humain correspond à une idée profondément subversive, la souveraineté du droit humain. C'est cette doctrine matérialiste et athée qui a précipité la Révolution française dans le sang et lui a infligé l'opprobre du despotisme après le délire de l'indépendance. Il n'est pas exact de dire que les nations sont maîtresses absolues de leur destinée, car leur souverain maître, c'est Dieu lui-même, et elles ne seront jamais hors de sa puissance. Si elles possédaient la souveraineté absolue, elles pourraient tout, même contre la justice éternelle, même contre Dieu. Qui oserait aller jusque-là? Mais le principe du droit divin, avec la signification qui s'y trouve communément attachée, c'est pas un principe moins funeste, car il voue les peuples à l'obscurantisme, à l'arbitraire, au néant. Il reconstitue logiquement le régime des castes. Il fait des peuples un troupeau d'esclaves, conduits, comme dans l'Inde, par la main des prêtres, et tremblant sous la verge du maître. Comment en serait-il autrement, si le souverain est l'envoyé de Dieu, s'il est le représentant même de la divinité sur la terre? Il a tout pouvoir sur les créatures humaines soumises à son empire. Et ce pouvoir n'aura de frein que dans des règles générales d'équité dont il sera toujours facile de s'affranchir. C'est dans le champ qui sépare ces deux opinions extrêmes que se sont livrées les furieuses batailles de l'esprit de parti. Les uns s'écrient « point d'autorité divine », les autres « point d'autorité humaine ». Ô Providence suprême, ma raison se refuse à accepter l'une ou l'autre de ces alternatives. Elles me paraissent toutes deux un égal blasphème contre la sagesse. Entre le droit divin qui exclut l'homme et le droit humain qui exclut Dieu, il y a la vérité, Machiavel. Les nations comme les individus sont libres entre les mains de Dieu. Elles ont tous les droits, tous les pouvoirs, à la charge d'en user suivant les règles de la justice éternelle. La souveraineté est humaine en ce sens qu'elle est donnée par les hommes, et que ce sont les hommes qui l'exercent. Elle est divine en ce sens qu'elle est instituée par Dieu et qu'elle ne peut s'exercer que suivant les préceptes qu'il a établis.
Je désirerais arriver à des conséquences précises. Jusqu'où la main de Dieu s'étend-elle sur l'humanité? Qui est-ce qui fait les souverains?
Ce sont les peuples.
Il est écrit « Per Meriges Regnant », ce qui signifiait au pied de la lettre « Dieu fait les rois ».
C'est une traduction à l'usage du prince au Machiavel, et elle vous a été empruntée dans ce siècle par un de vos plus illustres partisans. Mais ce n'est pas celle de l'Écriture sainte. Dieu a institué la souveraineté. Il n'institue pas les souverains. Sa main toute-puissante s'est arrêtée là, parce que c'est là que commence le libre arbitre humain. Les rois règnent selon mes commandements. Ils doivent régner suivant ma loi. Tel est le sens du livre divin. S'il en était autrement, il faudrait dire que les bons comme les mauvais princes sont établis par la Providence. Il faudrait s'incliner devant Néron comme devant Titus, devant Caligula comme devant Vespasien. Non, Dieu n'a pas voulu que les dominations les plus sacrilèges puissent invoquer sa protection, que les tyrannies les plus viles puissent se réclamer de son investiture. Au peuple comme au roi, il a laissé la responsabilité de leurs actes.
Oh, je doute fort que tout cela soit orthodoxe. Quoi qu'il en soit, suivant vous, ce sont les peuples qui disposent de l'autorité souveraine.
Prenez garde, en le contestant, de vous élever contre une vérité de pur sens commun. Ce n'est pas là une nouveauté dans l'histoire. Dans les temps anciens, au Moyen Âge, partout où la domination s'est établie en dehors de l'invasion ou de la conquête, le pouvoir souverain a pris naissance par la volonté libre des peuples, sous la forme originelle de l'élection. Pour n'en citer qu'un exemple, c'est ainsi qu'en France, le chef de la race carolingienne a succédé aux descendants de Clovis, et la dynastie de Hugues Capet à celle de Charlemagne. Sans doute l'hérédité est venue se substituer à l'élection. L'éclat des services rendus, la reconnaissance publique, les traditions ont fixé la souveraineté dans les principales familles de l'Europe, et rien n'était plus légitime. Mais le principe de la toute-puissance nationale s'est constamment retrouvé au fond des révolutions. Il a toujours été appelé pour la consécration des pouvoirs nouveaux. C'est un principe antérieur et préexistant qui n'a fait que se réaliser plus étroitement dans les diverses constitutions des États modernes.
Mais si ce sont les peuples qui choisissent leur maître, ils peuvent donc aussi les renverser. S'ils ont le droit d'établir la forme de gouvernement qui leur convient, qui les empêchera d'en changer au gré de leurs caprices? Ce ne sera pas le régime de l'ordre de la liberté qui sortira de vos doctrines. Ce sera l'ère indéfinie des révolutions.
Vous confondez le droit avec l'abus qui peut résulter de son exercice, les principes avec leur application. Ce sont là des distinctions fondamentales, sans lesquelles on ne peut s'entendre.
Non, n'espérez pas m'échapper, je vous demande des conséquences logiques. Refusez-les-moi si vous le voulez. Je désire savoir si, d'après vos principes, les peuples ont le droit de renverser leur souverain.
Oui, dans des cas extrêmes et pour des causes justes.
Mais qui sera juge de ces cas extrêmes et de la justice de ces extrémités?
Et qui voulez-vous qu'il le soit, sinon les peuples eux-mêmes? Les choses se sont-elles passées autrement depuis le commencement du monde? C'est là une sanction redoutable sans doute, mais salutaire, mais inévitable. Comment ne voyez-vous pas que la doctrine contraire, celle qui commanderait aux hommes le respect des gouvernements les plus odieux, les ferait retomber sous le joug du fatalisme monarchique?
Ah, votre système n'a qu'un inconvénient, c'est qu'il suppose l'infaillibilité de la raison chez les peuples. Mais n'ont-ils pas, comme les hommes, leurs passions, leurs erreurs, leurs injustices?
Quand les peuples feront des fautes, ils en seront punis comme des hommes qui ont péché contre la loi morale.
Et comment?
Ils en seront punis par les fléaux de la discorde, par l'anarchie, par le despotisme même. Il n'y a pas d'autre justice sur la terre, en attendant celle de Dieu.
Vous venez de prononcer le mot de despotisme. Vous voyez qu'on y revient.
Cette objection n'est pas digne de votre grand esprit, Machiavel. Je me suis prêté aux conséquences les plus extrêmes des principes que vous combattez. Cela suffisait pour que la notion du vrai fût faussée. Dieu n'a accordé au peuple ni le pouvoir, ni la volonté de changer ainsi les formes de gouvernement qui sont le mode essentiel de leur existence. Dans les sociétés politiques comme dans les êtres organisés, la nature des choses limite d'elle-même l'expansion des forces libres. Il faut que la portée de votre argument se restreigne à ce qui est acceptable pour la raison. Vous croyez que, sous l'influence des idées modernes, les révolutions seront plus fréquentes? Elles ne le seront pas davantage. Il est possible qu'elles le soient moins. Les nations, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, vivent actuellement par l'industrie. Et ce qui vous paraît une cause de servitude est tout à la fois un principe d'ordre et de liberté. Les civilisations industrielles ont des plaies que je n'ignore point, mais il ne faut pas nier leurs bienfaits, ni dénaturer leurs tendances. Des sociétés qui vivent par le travail, par l'échange, par le crédit, sont des sociétés essentiellement chrétiennes, quoi qu'on dise. Car toutes ces formes si puissantes et si variées de l'industrie ne sont au fond que l'application de quelques grandes idées morales empruntées au christianisme, source de toute force, comme de toute vérité. L'industrie joue un rôle si considérable dans le mouvement des sociétés modernes que l'on ne peut faire, au point de vue où vous vous placez, aucun calcul exact sans tenir compte de son influence. Et cette influence n'est pas du tout celle que vous avez cru pouvoir lui assigner. La science qui cherche les rapports de la vie industrielle et les maximes qui s'en dégagent sont tout ce qu'il y a de plus contraire au principe de la concentration des pouvoirs. La tendance de l'économie politique est de ne voir dans l'organisme politique qu'un mécanisme nécessaire, mais très coûteux, dont il faut simplifier les ressorts. Et elle réduit le rôle du gouvernement à des fonctions tellement élémentaires que son plus grand inconvénient est peut-être d'en détruire le prestige. L'industrie est l'ennemi né des révolutions, car sans l'ordre social, elle périt, et avec elle s'arrête le mouvement vital des peuples modernes. Elle ne peut se passer de liberté, car elle ne vit que par des manifestations de la liberté. Et remarquez-le bien, les libertés en matière d'industrie engendrent nécessairement les libertés politiques, si bien que l'on a pu dire que les peuples les plus avancés en industrie sont aussi les plus avancés en liberté. Laissez là l'Inde et laissez la Chine qui vivent sous le destin aveugle de la monarchie absolue. Jetez les yeux en Europe et vous verrez. Vous venez de prononcer de nouveau le mot de despotisme. Eh bien, Machiavel, vous dont le sombre génie s'est si profondément assimilé toutes les voies souterraines, toutes les combinaisons occultes, tous les artifices de lois et de gouvernements à l'aide desquels on peut enchaîner le mouvement des bras et de la pensée chez les peuples, vous qui méprisez les hommes, vous qui rêvez pour eux les dominations terribles de l'Orient, vous dont les doctrines politiques sont empruntées aux théories effrayantes de la mythologie indienne, veuillez me dire, je vous en conjure, comment vous vous y prendriez pour organiser le despotisme chez les peuples dont le droit public repose essentiellement sur la liberté, dont la morale et la religion développent tous les mouvements dans le même sens, chez des nations chrétiennes qui vivent par le commerce et par l'industrie, dans des États dont les corps politiques sont en présence de la publicité de la presse qui jette des flots de lumière dans les coins les plus obscurs du pouvoir. Faites appel à toutes les ressources de votre puissante imagination. Cherchez, inventez, et si vous résolvez ce problème, je déclarerai avec vous que l'esprit moderne est vaincu.
Prenez garde, vous me donnez beau jeu, je pourrais vous prendre au mot.
Faites-le, je vous en conjure.
Je compte bien ne pas y manquer.
Dans quelques heures, nous serons peut-être séparés. Ces parages ne vous sont point connus. Suivez-moi dans les détours que je vais faire avec vous le long de ce sombre sentier. Nous pourrons éviter encore quelques heures le reflux des ombres que vous voyez là-bas.